Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, que peuvent les maires face à la radicalisation? Un changement d'apparence physique, une modification vestimentaire, une pratique religieuse hyper ritualisée, une stratégie de dissimulation ou encore des antécédents judiciaires. Ce sont quelques-uns des indicateurs de radicalisation sur lesquels peuvent s'appuyer désormais les élus locaux si un signalement s'avère nécessaire. Cette fiche pratique figure dans un guide de prévention de la radicalisation distribué aux acteurs de terrain. Une initiative parmi d'autres pour tenter de mettre en place un partenariat entre les services de l'État et les relais locaux que sont notamment les maires. Une charge supplémentaire à l'actif de ces derniers que certains risquent d'avoir d'autant plus de mal à honorer que leurs pratiques sur le terrain ne sont pas toujours dénuées d'ambiguïté. Non pas qu'ils favorisent directement la radicalisation, mais on parle plutôt ici de clientélisme, de faveurs accordées à des associations cultuelles, à des animateurs de quartier qui, en retour, vous aident à consolider votre base électorale, quitte à fermer les yeux sur certaines dérives. Or, lutter contre la radicalisation, n'est-ce pas aussi lutter contre ces pratiques? Alors que peuvent les maires face à la radicalisation? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, c'est logique, deux maires ce soir. Gilles Platret, bonsoir.
Bonsoir.
Maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône. Vous co-présidez le groupe de travail sur la laïcité de l'AMF, l'Association des maires de France, qui tient son 99e congrès cette semaine à Paris, porte de Versailles. Vous interveniez justement ce matin au congrès dans le cadre d'un atelier intitulé « Prévention de la radicalisation ». Pour discuter avec vous, Christophe Rouillon, bonsoir.
Bonsoir.
Maire PS de Coulaines, c'est une commune près du Mans qui compte 8000 habitants, m'avez-vous dit tout à l'heure, vice-président de l'Association des maires de France. Vous étiez présent le 19 mai dernier lors de la signature d'une convention entre l'État et l'AMF sur le rôle des maires par rapport à la radicalisation. Puis notre troisième invité n'est pas maire, mais c'est une ancienne élue. Il s'agit de Céline Pina, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne adjointe au maire de Jouy-le-Moutier, rappelez-moi dans quel département?
Val-d'Oise.
Dans le Val-d'Oise. Ancienne conseillère régionale PS d'Île-de-France. Et vous venez de publier aux éditions Quairo « Silence coupable », dans lequel vous revenez notamment sur, on va dire, ces ambiguïtés que j'évoquais de certains élus à l'égard d'associations qui, sous couvert parfois, par exemple, d'œuvres humanitaires, sont des portes d'entrée vers la radicalisation. Alors, avant d'évoquer cette question-là, moi, je voudrais d'abord savoir, et avec vous, Christophe Rouillon, et avec vous, Gilles Platret, si dans vos communes, vous avez déjà été confrontés directement à des phénomènes de radicalisation, par exemple d'individus qui seraient partis combattre en Syrie ou qui vous auraient été signalés comme étant des individus dangereux. Christophe Rouillon.
J'ai pas été confronté à des signalements sur des personnes étant parties en Syrie, mais néanmoins nous avons un travail permanent en liaison avec les services de police, également avec les bailleurs sociaux, l'éducation pour vérifier, pour regarder, pour observer, puis pour signaler dans certains cas des comportements qui nous semblent douteux ou des personnes qui semblent avoir une évolution néfaste vers la radicalisation. Voilà, donc le travail existe. Les maires sont, je pense, surtout dans les quartiers populaires, dits entre guillemets de banlieue, tout à fait sensibilisés depuis les attentats de Charlie Hebdo et aussi du 13 novembre. Et là, nous allons passer à une étape supplémentaire après la signature de la convention entre François Baroin et puis Manuel Valls la semaine dernière.
Gilles Platret, même question qu'à Christophe Rouillon.
Alors, pas de départ en Syrie ou pour des fronts, quels qu'ils soient, menés et tenus par l'État islamique sur la ville de Chalon-sur-Saône, mais également des phénomènes qui nous ont interpellés. Vous avez cité un certain nombre de signaux, hein, ce qu'on appelle les signaux faibles qui peuvent nous alerter sur une radicalisation religieuse et laquelle ne débouche pas forcément sur un acte terroriste, il faut le redire, mais elle doit à tout le moins éveiller l'intention des pouvoirs publics. Donc oui, on a ces phénomènes-là à Chalon-sur-Saône aussi. C'est une ville plutôt tranquille, hein, mais avec un certain nombre de quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville qui concentrent un certain nombre de difficultés. et dans lesquels on exerce une vigilance, on va le dire comme ça. Donc l'idée, c'est de se donner les moyens de le faire d'une manière, j'allais dire, au minimum organisée, pour pas qu'on tombe dans la délation stérile, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais on est bien sur un phénomène de vigilance, et c'est pour ça qu'on y travaille, tout simplement.
Céline Pina, vous comme ancienne élue locale et régionale, est-ce que vous aviez été informée, là aussi, dans le cadre de vos fonctions, de signalement d'individus ?
En fait, moi, j'ai des yeux, donc je m'en sers, et c'est pas très compliqué de voir qu'un quartier, à un moment donné, est en train de basculer, ou qu'une ville est victime de ça, parce que la première trace et la plus visible, ce sont les femmes. Et quand vous commencez à voir des femmes qui sont voilées des pieds à la tête, parce que les voiles dont je parle, moi, dans mon environnement, ce sont des linceuls, vraiment, dans lesquels les femmes sont drapées complètement. Quand vous voyez ça dans un quartier, vous pouvez être sûr qu'il y a un travail de radicalisation qui est à l'œuvre. Et vous le voyez très rapidement. Ensuite, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, les liens entre élus et population sont extrêmement distendus. En tout cas, pour ce que je connais, autrement dit, dans la banlieue parisienne. C'est peut-être un peu différent dans une ville de 8000 habitants. Donc, le vrai problème, c'est que si l'élu décide de ne pas voir, il y a très peu de niveaux intermédiaires qui vont l'alerter. Parce que ceux qui, aujourd'hui, ont des témoignages à porter ont été trop souvent humiliés, rejetés ou traités de racistes. Et donc, aujourd'hui, se taisent. Et d'autres ont intérêt à ce que les informations ne remontent pas. Donc,
mais est-ce que vous parlez de la même radicalisation ? Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi intéressant de savoir ce qu'on met derrière ce terme. Parce que moi, je posais la question, finalement, sur soit des individus qui seraient partis alors faire le djihad en Syrie, soit qui seraient signalés par les services de police ou par les services de l'antiterrorisme. Là, on n'est pas tout à fait dans la même chose.
En fait, la radicalisation, il y a effectivement le djihad. Mais il y a ce qu'on vit surtout ici. Il y a cette radicalisation qu'on vit en France et qui fait que certaines femmes, pas loin de chez moi, n'ont déjà plus les mêmes droits que moi. Cette radicalisation qu'on vit en France, elle va peut-être pas... Tout le monde, les trois quarts, ne deviendront pas des djihadistes. Mais en tout cas, elle casse notre contrat social et elle détruit aujourd'hui notre société.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Royon ?
Je pense qu'il faut partir de la définition du terme, qui n'est pas la même d'ailleurs. Lorsque l'on parle avec nos collègues maires européens, j'ai la chance de siéger au comité européen des régions. Et quand on parle avec les Anglais, la radicalisation, pour eux, ce sont peut-être les phénomènes de hooliganisme. Et aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont fichés S, les radicalisés religieux sont minoritaires par rapport aux militants d'extrême droite radicaux ou les militants d'extrême gauche qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les manifestations violentes. Donc je pense qu'il y a déjà une définition à avoir. Alors si effectivement le thème de l'émission ce soir c'est la radicalisation violente qui concerne ceux qui sont susceptibles de faire le djihad, après il faut avoir une autre distinction entre ceux qui sont capables de commettre des actes terroristes et ceux qui ont une vision rigoriste de la religion et qui peuvent effectivement non pas être susceptibles de poser des bombes, mais avoir un comportement totalement anormal, non laïque, non respectueux des traditions républicaines, non respectueux de l'égalité homme-femme, et comme cela a été dit à l'instant, effectivement, qui tentent d'utiliser la religion pour faire passer leur message, et y compris pour faire pression sur les enfants, sur les femmes, et pour changer le modèle républicain. Donc, je pense qu'il faut déjà faire le partage entre les différents sur les différents types de radicalisation pour ne pas avoir une vision qui soit caricaturale.
Gilles Platret, vous, je crois qu'à la mairie de Chalon-sur-Saône, vous avez mis en place une cellule de, alors je sais pas comment il faut dire, de détection.
Oui, c'est une cellule d'échange d'informations en fait, hein, avec les services de l'État et le renseignement territorial.
Voilà, sur ces questions de radicalisation, est-ce que par exemple le phénomène qu'évoquait Céline Pina, donc de voir peut-être dans des quartiers de plus en plus de femmes qui sont entièrement voilées, est-ce que ça peut faire l'objet, pour vous, d'une signalisation ? Et si oui, d'ailleurs, à qui le signalez-vous ?
Alors oui, ça peut être le cas. Oui, c'est à l'œuvre, je le dis, hein, y compris d'ailleurs dans une province plutôt tranquille comme la Bourgogne. Aujourd'hui, on a un raidissement des pratiques, je ne veux même pas dire rituelles concernant le voile, parce qu'on aura du mal à trouver dans le Coran, en réalité, l'obligation de voiler les femmes. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des pratiques qui s'apparentent à des pratiques d'islam politique, salafiste, qui emprisonnent les femmes. Ça, c'est une évidence. La difficulté que l'on a aujourd'hui, j'allais dire, il est grand temps qu'on agisse quelque part, c'est que voilà maintenant plus de 10 ans, 12 ans, que le djihadisme de proximité a été théorisé par un certain nombre de doctrinaires de l'islam politique, de l'islam radical. Et il ne s'agit pas simplement de prévenir des départs en Syrie, il s'agit aussi de repérer des situations qui peuvent provoquer un basculement sur le territoire national, hein, des individus qu'on va appeler à passer à l'acte, et c'est ce que fait l'État islamique dans des vidéos sur Internet, etc. Donc notre but, comment est-ce qu'on agit pour être très pratico-pratique, parce que je pense que les élus, on essaye d'être près du terrain. Donc, en réalité, on a mis en place une cellule d'échange. Au mois de novembre l'année dernière, les maires se sont retrouvés 5 jours après les attentats du Bataclan et des rues de Paris et du Stade de France. Et on s'est tous dit qu'il fallait qu'on agisse. Donc moi, j'ai saisi le préfet de mon département, la Saône-et-Loire, lui proposer de mettre en place ce qu'on appelle une cellule d'échange, cellule municipale d'échange sur la radicalisation. Donc elle est composée d'une manière très, très stricte, parce qu'on ne veut pas que l'information se diffuse trop largement. On est bien sur des informations confidentielles. Elle est présidée par le maire, donc je la préside d'une moyenne mensuelle. Elle regroupe le sous-préfet au titre de l'État, un agent du renseignement territorial, le commissaire de police, le chef de la police municipale, mon adjoint à la sécurité, point barre. Et on s'est réunis et en fait on a mis en place dans nos services municipaux ce qu'on appelle des capteurs, c'est-à-dire qu'on a formé nos directeurs généraux adjoints, nos chefs de service, et on a sur le terrain des gens qui sont de confiance, hein, et qui vont pas fantasmer et faire des choses à l'emporte-pièce.
On les a formés, c'est-à-dire ils ont été formés par qui ?
Par un cabinet. On a pris un cabinet qui est reconnu sur la place, ERM, hein, qui travaille beaucoup, qui a d'ailleurs fait valider la démarche auprès du préfet Ngam, qui est secrétaire général du comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et donc, on a ces capteurs, comme on les appelle sur le terrain, qui sont en capacité sur des phénomènes soit d'enfermement par le voile, mais des tas d'autres aussi. Hein. Ça peut être des ruptures familiales. Il y a des tas de signaux faibles qui doivent être additionnés. Et si le cas nous paraît sérieux, on le fait remonter à la cellule d'échange. Et si la cellule d'échange le trouve sérieux, et bien le renseignement territorial s'en saisit pour aller plus loin dans l'investigation.
Christophe Rouillon, il y a vraiment un avant et un après attentat de 2015 dans la façon dont les élus locaux, et en particulier les maires, abordent ces questions.
On a toujours travaillé contact du terrain. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans l'image éloignée des gens ou de l'élu qui ne regarde pas la réalité en face. Moi, je ne me reconnais pas dans le portrait de Céline Pina, mais bon, peut-être
qu'il la comprend mieux, en tout cas aujourd'hui.
J'ai simplement dit que quand on voulait voir les choses, il suffisait de les regarder. Non, j'ai porté aucun jugement sur qui que ce soit.
Je pense qu'il y a peut-être une réalité qui existe dans certains territoires, je ne le cache pas, mais en tout cas, nous sommes extrêmement vigilants. On sent depuis quand même un certain temps, une évolution. C'est vrai, il y a plus aujourd'hui de voile qu'il y en avait il y a quelques années. Néanmoins, le voile n'est pas forcément le marqueur de la radicalisation violente. Et lors des derniers attentats de Charlie Hebdo, je suis allé dans les classes de CM2 et j'ai vu des enfants qui ont chanté spontanément la Marseillaise dans un quartier populaire et qui sont des gens qui ont quitté des zones radicales violentes et dont qui ont été parfois témoins d'actes et qui n'ont pas envie de revoir ça en France. Donc, ils sont totalement solidaires des valeurs de la République. Et leurs mères ont parfois le voile. Après, qu'on ait des tenues de haut en bas avec des femmes voilées, emprisonnées, ça c'est totalement autre chose. Et il faut effectivement qu'on soit capable, nous les mères, que ce soit à l'occasion de mariage, que ce soit à l'occasion de sorties scolaires, que ce soit à l'occasion d'événements particuliers, il faut qu'on soit capable de transmettre à la cellule qui est mise en place par le préfet les éléments qui vont permettre aux services spécialisés d'agir sans faire du fantasme général et en voyant la menace terroriste à tous les coins de rue et derrière chaque voile d'une personne qui se promène dans la rue.
Céline Pina, à la décharge des maires quand même, ils ne sont pas les seuls non plus à ne pas avoir été toujours en mesure de comprendre certains signes avant-coureurs. Hein. Moi, je vais mettre les journalistes justement dans le même lot finalement. C'est-à-dire que après les attentats, il y a aussi des choses qui ont été comprises et qui ne l'étaient pas forcément avant. Vous ne croyez pas quand même qu'il y a une prise de conscience des élus locaux sur ces questions aujourd'hui ?
Je pense que ça progresse, mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément chez les élus que la prise de conscience soit la plus forte. Je pense qu'elle est d'abord dans la population. Mais la population a pris conscience il y a quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, il y a un double effet. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui progresse et il y a un sentiment d'impuissance qui progresse aussi, qui fait que parfois, on a beau prendre conscience, on va refaire exactement les mêmes erreurs qui nous ont amenés là où on est. Je parle de choses qui sont assez simples. C'est que, par exemple, lorsque lorsqu'on a voulu mettre en place, je raconte toujours cette histoire parce que pour moi elle est révélatrice, c'est quand on a voulu faire la laïcité à l'école, bien expliquer ce qu'était la laïcité à l'école. On s'est contenté très souvent d'afficher des posters dans l'école. Or, normalement, une vraie action politique, ça aurait été quelque chose qui aurait été fait en plusieurs lignes. D'abord, le national qui commence par reconnaître qu'il y a un problème. Parce que quand on fait une action comme ça, c'est face à un certain nombre de problèmes. Reconnaître le problème, c'est lever la parole et lui donner la légitimité. Ensuite, faire son travail de transmission, autrement dit pendant un an, tous les élus d'importance nationale expliquent ce qu'est la laïcité, pourquoi c'est fondamental et transmettent cet esprit-là. Et ensuite seulement, on l'a fait arriver les posters à l'école et on demande aux directeurs d'école de faire leur travail. Voilà comment on fait un vrai travail politique. Ce qui a été fait, ça a été quand même un défilé, un défilement pour porter cette parole-là. Et ensuite, on a dit, voilà, on vous a fait un super memento, on vous a mis un poster, débrouillez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut aller sur le terrain, il faut mouiller sa chemise, il faut oser dire, ça ne va pas, et voilà comment on va faire pour que ça aille mieux. Ça met les gens en ligne. Le sentiment de déni et le sentiment qu'on se défile parce que ça ne nous arrange pas, ça met pas les gens en ligne.
Gilles Platret, est-ce que pour vous, la lutte contre la radicalisation, qui n'est pas forcément la radicalisation la plus violente, mais enfin en tout cas au sens large de ce terme, ça passe aussi par une réaffirmation de la laïcité? D'ailleurs, vous vous êtes manifesté il y a quelques mois sur ce sujet en supprimant les menus
de substitution.
Voilà, les menus de substitution, donc les menus sans porc, hein, voilà, à l'école. Ça en est où d'ailleurs cette mesure? Ça a été.
On a été attaqué au tribunal administratif, donc on attend la décision du tribunal administratif de Dijon dans les semaines qui viennent, théoriquement d'ici la fin du semestre. Bon, on est serein parce que les maires aujourd'hui, et la loi le reconnaît, et la jurisprudence aussi d'ailleurs précédente, ont autorité pour organiser ce service public facultatif qui est la restauration scolaire.
Mais est-ce qu'il y avait une idée de réaffirmer la laïcité justement par rapport à certaines dérives? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'avoir l'effet inverse de celui recherché?
Alors, la vérité, c'est que on a quand même constaté, et c'est là où on revient à la position des élus par rapport à un certain nombre de groupes de pression. L'avantage des journalistes, si vous me le permettez, par rapport aux élus, c'est qu'ils ne passent pas régulièrement devant les lecteurs, si je puis dire. C'est une chance, la démocratie, vous ne me ferez pas dire le contraire, mais on peut évidemment, quand vous passez devant les lecteurs, vous êtes soumis à des pressions, et on vient vous voir, on vous fait comprendre que ça serait bien de lâcher un peu de lait sur telle ou telle chose, si vous voulez obtenir les voix de telle ou telle communauté. C'est comme ça qu'on arrive à tomber dans des dérives qui peuvent être condamnables. Et ça s'appelle du clientélisme, ni plus ni moins. Hein.
Oui, parce que ça vient aussi parfois des élus quand même, qui vont justement voir des associations ou des
relais
locaux.
On est d'accord, mais les associations, notamment salafistes dans certains quartiers, sont particulièrement bien structurées pour arriver à soutirer ces avantages. Donc simplement, nous, ce qu'on a dit à Chalon-sur-Saône, c'est qu'on a voulu mettre un terme à un accommodement qui était arrivé il y a une trentaine d'années, qui consistait à systématiquement donner un plat de substitution dès que du porc était servi au menu. Donc, en fait, ce qu'on fait pratiquement, et ça se passe très bien, et d'ailleurs, on n'a pas eu de baisse de fréquentation dans nos restaurants scolaires pour autant, c'est que le jour où il y a du porc, eh bien, il y a du porc. On donne un peu plus d'autres choses, mais on ne fait pas rentrer d'autres choses qui est au menu, j'entends bien. On ne va pas chercher un plat particulier. Pourquoi? Parce que si la pratique du plat de substitution, c'est simplement faire rentrer un interdit religieux dans l'organisation d'un service public. Et ça nous a semblé contraire à la laïcité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour répondre à votre question de départ. Je pense qu'il y a deux actions à faire. On lutte contre les phénomènes les plus radicaux. On essaye de les repérer, de les porter à la connaissance de l'État pour que le renseignement territorial, le service antiterroriste, si c'est nécessaire, fasse leur travail. Après, j'allais dire, le maire a fait son boulot s'il a fait ça. Il est sur le terrain, il a des informations, il les traite, il les transmet. Moi, je ne fais pas partie des maires qui souhaitent absolument tout savoir sur ce qui se passe derrière. Ça, c'est le travail de l'État. L'important, c'est que nous, comme un maillon dans une chaîne, on fasse notre boulot. Mais par ailleurs, on a aussi une énorme action pédagogique à faire. Il faut, et je rejoins Céline Pina, il faut absolument réaffirmer les principes fondateurs de la République. C'est notre bien commun et c'est ce qui permettra demain d'intégrer pleinement dans la société française des populations qui viennent de tous les horizons. La France est un pays ouvert, elle doit le rester, mais il faut réaffirmer les principes qui fondent notre République.
Christophe Rouillon, il y a ces deux niveaux d'action, c'est-à-dire il y a un niveau d'action immédiat, disons, quand on vous signale un phénomène de radicalisation, soit quand vous le détectez, élus locaux, et donc c'est une question policière, et puis un travail de fond. fond, qui est plus, comment dire, un travail de rappel d'un certain nombre de valeurs républicaines, disons. Ouais,
mais par rapport à Céline Pina, moi aussi, j'ai mes titres de gloire parce que j'étais traité d'islamophobe par des salafistes à l'occasion d'un débat où j'avais dit à un professeur d'université qui voulait remettre en cause la loi sur le voile à l'école, je lui ai dit, bah, commencez par donner le bon exemple, mettez-vous un voile sur la tête.
C'est une bonne idée.
Merci. Et voilà, à la sortie, il y a un type qui est venu me voir, petite barbe, etc., m'a dit, vous êtes un islamophobe. Très bien, j'ai simplement défendu.
C'est l'injure dont on a tous été gratifiés à un moment ou à un autre.
C'est notre petite épingle sur le costume. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est...
La sortie d'éventuelles menaces, d'ailleurs, en termes électoraux, en disant, si vous continuez comme ça, vous
serez... Ça viendra peut-être après, mais en tout cas, je m'en fiche.
Pour le coup, la menace en termes électoraux, tout le monde l'utilise.
Non, mais j'ai toujours été élu avec 70% des voix, donc j'ai une petite marge même. Voilà.
Oui, ça va.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, effectivement, nous avons engagé un travail de fond après Charlie Hebdo. C'est que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous avons mis en place un club Valeurs de la République sur un programme qui est dans la durée, sur des cycles de 7 séances où on explique tous les éléments, tous les échelons, etc., de ce que c'est la République, ce que c'est que la laïcité, ce que c'est que l'égalité homme-femme, etc. C'est un vrai travail de fourmi. Et je pense que la détection, c'est aussi, par exemple, quand vous voyez un père qui interdit à sa fille de faire du basket alors qu'elle s'engage pour faire sport-études, c'est d'engager un travail de soutien aux mères, parfois, qui se défendent aussi, et puis aussi pour les enfants. Et moi, je voudrais dire que là, dans le cadre de l'action de la convention sur la radicalisation, le gouvernement va engager 20 millions d'euros pour aider les communes dans les zones urbaines sensibles à pouvoir mettre en place des actions anti-radicalisation et sur l'aspect psychiatrique aussi des choses. Parce qu'il y a un excellent livre qui vient de sortir, Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman de Fethim Beslama, qui explique que c'est justement dans cette phase de transition subjective de l'adolescence que des enfants peuvent basculer avec une approche totalement psychiatrique de la question.
Encore un mot, Christophe Rouillon, juste sur la détection de ces signaux faibles que vous évoquiez à nouveau. Comment est-ce que vous gérez le risque de surinterprétation, justement, de certains signaux? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut justement que ça soit très balisé et que vous ayez des interlocuteurs clairement identifiés qui, eux, vont être même peut-être un peu mieux que vous de juger de ce que vous...
Comme l'a dit le maire de Chalon-sur-Saône, il faut des petites équipes de gens qui ne sont ni bavards ni vantards et qui travaillent en bonne intelligence et qui ne partent pas dans le délire. Et effectivement, il faut qu'on soit capable de faire un filtrage pour transmettre aux services de police des indications sur des personnes qui nous semblent dangereuses, et après où il y aura un deuxième filtre. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit vox populi et que tout le monde soit menacé parce qu'il y a une indication. Par contre, moi, je ne partage pas l'avis du maire de Chalon-sur-Saône sur la cantine. Je n'accepterai pas, en tant que catholique, qu'on m'oblige à manger de la viande rouge le vendredi saint. Donc, je donne une possibilité à celui qui veut ne pas manger du porc, de manger un œuf, même si je ne lui donnerai pas de la nourriture halal. Ça, c'est totalement opposé. Donc, moi, j'ai une conception de la laïcité qui est tout à fait ferme, mais qui ne va pas jusqu'à ne pas donner à manger à quelqu'un dont les convictions religieuses font qu'il ne souhaite pas manger de porc. D'ailleurs, juif ou
donne à manger, je vous rassure. Aucun enfant n'est sorti des cantines de Chalon en ayant faim. Simplement, on ne fait pas de plat de substitution. C'est pas du tout la même chose, mais l'enfant mange néanmoins lorsqu'il est à table ces jours-là. Mais on lui donne des compléments qui sont au menu.
Et donc vous assure. Une substitution.
Pardon ?
Donc c'est une
substitution. Non, c'est ce qui est au menu. C'est-à-dire qu'on a des tables de reservice et il reprend les choses qu'il
peut. Il reprend une entrée, il reprend un dessert. Alors.
Il reprend, oui, ou des légumes, etc. Voilà, donc l'enfant
ne... C'est pas très loin de ce qu'on fait en réalité.
Mais il n'y a pas de substitution particulière.
C'est un peu médiatique.
La pratique ne tient pas compte et je pense vraiment qu'on se fourvoie lorsqu'on fait entrer l'interdit alimentaire dans la pratique administrative. Je pense que c'est une erreur.
Dissuader les gens de pratiquer une
religion. D'où l'idée de leur tirer.
Bon, débat intéressant que cette question des cantines. Mais voilà, qui n'est pas totalement non plus déconnecté du sujet de ce soir, mais qui n'est pas le seul en tout cas qu'on voudrait essayer d'aborder. Céline Pila, sur la question des associations et de certaines associations qui peuvent être soutenues par des mairies pour acheter à la fois peut-être une réélection, en tout cas une forme de réélection, une paix sociale, est-ce que c'est si facile que ça de les détecter tout de suite et de détecter, on va dire, leur dangerosité? Parce qu'elles n'avancent pas aussi un peu masquées, sous couvert, par exemple, d'actions humanitaires, et on se rend compte parfois trop tard que c'est...
J'allais dire, bien sûr qu'elles avancent masquées. Après, tout le monde n'est pas au même degré d'information. De la part des maires, quand même, très souvent, il y a pas mal d'hypocrisie quand ils font semblant de tomber de l'armoire. Mais tous les maires ne sont pas le maire de Saint-Denis. j'allais dire, qui lui favorise clairement dans sa ville une forme de radicalité assez violente et qui organise des meetings moins d'un mois après les massacres du Bataclan pour critiquer le racisme d'État et parler de dictature policière.
Bon, alors, vous allez être obligé à donner un droit de réponse au maire de Saint-Denis. Merci Céline Pina.
Je suis désolée, je ne maîtrise pas encore tous les codes. Mais voilà, on a très peu de gens qui sont comme ça. En revanche, ce qui va se passer, et moi je l'ai vu sur mon territoire, d'abord c'est que les gens qui noyautent sont intelligents. Il ne faut jamais oublier qu'en face de nous, on a des adversaires qui sont intelligents et qui prennent le temps. Le noyautage, il ne se fait pas, ce que j'explique, ce n'est pas des hordes de barbus qui prennent la place des gens. Ce sont plutôt des gens assez intelligents qui sont mis deux ou trois dans certaines associations et qui vont finir par ensemencer l'esprit de ceux qui les dirigent.
Mais ça, vous l'avez vu, vous, directement, ça ?
Ben, on le voit dans le changement de discours des interlocuteurs. Moi, j'ai vu sur mon territoire, par exemple, la Ligue de l'enseignement basculer. La Ligue de l'enseignement qui, avant, était quand même un pilier de l'éducation populaire. Des gens qui étaient
un pilier de la laïcité. La Ligue de l'enseignement, Céline Pina, dans
tous les départements. Mais par exemple, dans mon département, oui, il y a eu un basculement et de façon générale, au niveau national, à la Ligue de l'enseignement. Ils ont quand même fêté leur 150e anniversaire l'année dernière avec Tariq Ramadan. Et ils travaillent avec l'European Muslim Network, qui est le lobby de Tariq Ramadan.
Tariq Ramadan qui intervient par ailleurs dans de nombreux médias, y compris, je pense, sur Radio France.
Oui, tout à fait, et qui quand même est la star de tous les rassemblements soi-disant musulmans, qui en général font venir les personnes qui vous expliquent que la femme, si elle sort sans son voile, on a le droit de la violer, que les enfants se transforment en singes s'ils écoutent de la musique... Des gens qui sont profondément antisémites. Enfin, faut voir quand même le casting des gens qu'on autorise à venir sur notre territoire, qu'ils viennent de l'étranger ou qu'ils soient imams chez nous d'ailleurs. Enfin, les discours qui sont tenus sont des discours absolument scandaleux.
Mais c'est quoi ? C'est de la complaisance ou c'est de la méconnaissance ?
Je pense que
certains acceptent ça.
C'est de la complaisance, de façon très claire. La LDH aujourd'hui a perdu toute aura morale. Le problème, c'est qu'on continue.
Sinon, on va se faire des amis avec le maire de Saint-Denis, avec la Ligue de l'enseignement et avec la Ligue des droits de l'homme.
À un moment donné, quand il y a des noyautages et qu'il y a des traces de ça à un niveau national, il faut bien regarder en face ce qui se passe et se demander qu'est-ce qui arrive. Pourquoi ces institutions et pas d'autres ? Parce qu'elles représentent la laïcité et parce qu'elles ont une telle aura qu'avant qu'on se retourne et qu'on se dise « Oh là là, il y a peut-être un problème », on aura laissé avancer des gens dangereux. Ce n'est pas par hasard que ces institutions-là sont ciblées.
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce noyautage, Gilles Platret et Christophe Rouillon, mais en tout cas, est-ce que dans les outils qui sont aujourd'hui à votre disposition pour lutter contre la radicalisation, il y en a qui justement permettent de se prémunir de ce genre de dérive ?
Lorsqu'on a organisé sur Chalon-sur-Saône, quand on a organisé ce qu'on appelle encore une fois les capteurs sur le terrain, on regarde les ruptures de comportement, parce que c'est vrai que c'est souvent un signe, rupture ostentatoire. On parlait du voile qui peut très vite être un signe. Encore une fois, c'est pas suffisant, mais on regarde aussi d'autres choses. Et je pense en particulier au secteur associatif. Vous avez aujourd'hui, à l'inverse du voile qui est quelque part un objet de propagande dans la rue, hein, puisqu'il est visible, et c'est aussi une idée de dire de la part de certains salafistes, la femme est soumise et donc j'affirme dans la rue qu'elle est soumise parce qu'elle ne se déplacera plus que complètement voilée.
Par ailleurs, on peut être voilé sans véhiculer un message politique.
Hein, oui, on est bien d'accord. Bon, mais
alors pourquoi on se voile ?
Oui,
le voile a quand même une signification.
On a fait un débat il n'y a pas très longtemps sur voilà, est-ce qu'on peut être voilé et être féministe, et il y avait des arguments dans un camp comme dans l'autre qui étaient finalement assez convaincants d'ailleurs les uns et les autres.
Bon, après, ça dépend l'usage et qui demande d'être voilé et qui oblige à voiler. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Mais il y a à l'inverse des phénomènes qui sont plus souterrains. Lorsque on a une reprise en main progressive de certains clubs sportifs, par exemple, sur des bases qui sont des bases d'islam politique, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, et moi je peux vous dire, pour avoir écouté un certain nombre d'élus, notamment dans le cadre de la commission laïque de l'Association des maires de France, que c'est une pratique qui est à l'œuvre. Là, notre rôle, c'est justement de prévenir cette dérive-là pour pouvoir intervenir directement. On a différents moyens de le faire quand on est maire. On a, et l'AMF d'ailleurs l'a proposé, on propose aux associations de signer avec nous une charte de respect de la laïcité pour éviter ce genre de phénomène, parce que vous avez le seul moyen de pression que vous ayez par rapport à ça véritablement, c'est le chantage à la subvention. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis chantage, c'est la condition à la subvention. C'est-à-dire que si on repère des pratiques qui sont celles-ci, eh bien il faut retirer tout argent public. Mais il faut aussi que les ligues, que les fédérations sportives jouent le jeu avec nous et ne reconnaissent pas des clubs qui sont tombés dans cette dérive. Donc on essaye en tout cas de prévenir ces éléments en les repérant le plus tôt possible sur le terrain. Et je le redis, je pense que mon collègue maire sera d'accord, on est quand même excellemment bien placé quand on est élu local et maire pour être au contact de la réalité du terrain.
Votre collègue maire est-il d'accord, Christophe Royon ?
Je remercie Céline Pina d'avoir tiré le signal d'alarme. C'est tout à fait sain et c'est courageux. Et voilà, simplement, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas une réalité sur tout le territoire national, mais il faut être extrêmement vigilant. Il y a effectivement des tentatives de noyautage des associations qui peuvent exister. Et en tout cas, nous, on est très vigilants pour ne pas donner de subventions à des associations qui auraient une dérive à la fois religieuse ou politique. Bon, il y a le radicalisme religieux, mais il y a aussi le radicalisme politique. Aujourd'hui, nous, l'augmentation du vote Front National dans le quartier, dans nos villes, c'est aussi une forme de radicalisation. Et on commémore Verdun. Le nationalisme a fait, pour l'instant, plus de morts que tous les mouvements extrémistes russes, ce qui n'empêche pas qu'il faut combattre aussi. Pour dire, voilà, attention, ne pas non plus tomber dans une inquiétude généralisée. Et aujourd'hui, nos discours sont utiles. C'est nécessaire de tirer le signal d'alarme. Il faut faire attention à ce que ça ne provoque pas chez des gens un comportement de radicalisation politique qui nous ferait évoluer vers quelque chose d'encore plus dangereux.
Voilà, il y a cette radicalisation politique. Il y a aussi je vais tout de suite vous donner la parole, Céline Pinamé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de radicalisation, on pense radicalisation islamiste. Alors attention, évidemment, il faut bien redire, on le répète jamais, c'est que ça touche pas tous les musulmans, évidemment, et qu'il y a beaucoup aussi de convertis parmi ceux qui vont notamment faire le djihad ou avoir des actions violentes. Mais juste encore une question, Christophe Rouillon, c'est malgré tout, ces actions-là, ces radicalisations-là, elles sont faites au nom de l'islam. Quel est le pouvoir des maires par rapport, on va dire, au choix de l'islam qui va être pratiqué sur votre commune? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez aucun pouvoir, ou bien est-ce que par le biais justement de subventions, je ne sais pas s'il y a une mosquée par exemple sur votre commune à Coulaines, mais vous avez un minimum de possibilités d'action?
Je ne travaille pas pour les religieux, je travaille pour les laïcs. En tant que maire, je développe le sport, je développe l'éducation,
vous pouvez mettre par exemple à disposition un local qui servira de lieu de prière. Voilà, donc
ça sera pas gracieusement, la loi l'interdit.
Moi, j'ai pas le cas, mais le but, c'est d'aider les gens à découvrir Descartes, Shakespeare, Goethe, Victor Hugo, et ceux qui connaissent ces grands auteurs auront moins de chances d'aller vers le djihad. Moi, je ne suis pas là en train d'organiser le communautarisme et de saupoudrer pour essayer d'avoir une paix entre les religieux modérés. On est là pour défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, de défendre nos principes républicains et défendre l'ouverture d'esprit de nos jeunes et des gens qui sont dans les associations sportives ou dans les écoles.
Donc c'est pas forcément une absence de moyens d'action, de possibilités d'action, mais plutôt une volonté de ne pas interférer dans ces questions-là.
Non, je suis pas là pour faire arbitrage.
Céline Pina.
Oui, d'abord pour dire que les musulmans, quand on parle d'islamistes, ils comprennent très bien ce que ça veut dire, parce que pour le coup, ils les connaissent, les islamistes, et c'est même souvent eux qui, les premiers, ont tiré la sonnette d'alarme. Ce sont souvent des musulmans, notamment des Algériens, la communauté algérienne ici, qui nous a attirés en disant « Mais faites attention, regardez ce qui se passe sous vos yeux, nous on l'a vécu chez nous. » Donc c'est les alarmes qui ont été tirées, c'est pas rien. Elles sont extrêmement importantes. Donc, première chose. La deuxième chose, oui, la montée du FN est inquiétante. Et oui, pour le coup, le FN est plus proche du pouvoir que le moindre islamiste. La vraie question à se poser, c'est est-ce que cette montée du FN, elle ne vient pas du sentiment des Français de n'être pas protégés ? Parce que je crois qu'il y a eu quand même énormément de défaillances. La première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand même entre Mohamed Merah et Charlie, mais peut-être entre Charlie et les massacres de Paris. Pour beaucoup de Français, ils se posent la question aujourd'hui quand ils voient finalement une ambiance où personne n'a l'air d'exercer l'autorité. Ils se demandent clairement s'ils sont protégés. Et ce qui fait monter le Front National, c'est peut-être tout le déni que l'on a eu à un niveau national à un moment donné, et aujourd'hui l'impression que la France est encore un peu open bar, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Et c'est pas la dernière histoire de Benzema qui instrumentalise le racisme pour refuser de prendre ses responsabilités qui va nous aider, parce que cette utilisation...
Il y a eu Cantona avant lui. Hein.
Oui, tout à fait, Benzema, mais cette utilisation du terme raciste pour fermer la bouche, et le fait que pendant très longtemps, nos politiques nationaux n'ont pas osé dire ce qui était, dire ce qu'on affrontait à cause de cette peur-là, je pense que ça n'est pas pour rien dans la montée du Front National, qui d'ailleurs aujourd'hui monte sans rien dire. Là-dessus, ils sont pareils que les islamistes, ils critiquent toujours la démocratie, ils ne disent jamais quel est leur projet de société et quelle est leur vision de l'avenir. Là-dessus, ils sont à égalité, c'est vraiment la guerre des identitaires.
On est presque au terme de cette émission. Je voudrais vous faire écouter un extrait de deux reportages qu'on a mêlés ensemble autour du projet d'ouverture d'un premier centre de déradicalisation. Ça devrait être à Beaumont-en-Veyron, c'est près de Chinon. C'est dans le département de l'Indre-et-Loire. Il y a eu des manifestations les derniers week-ends de riverains qui craignent un petit peu que cette population, parce que ce sera plus des centres ouverts, que cette population crée du danger justement dans leur commune. Je vous laisse écouter un petit peu et en quoi consiste le projet et les inquiétudes de la population.
Avant l'été, 30 personnes âgées de 18 à 30 ans pourraient vivre dans cet internat pour une durée de 10 mois. Des jeunes radicalisés, pourtant l'État préfère parler de centres de réinsertion et de citoyenneté plutôt que de centres de déradicalisation.
L'objectif de ces centres, c'est de ramener les personnes dans le giron de notre République.
Ici, les jeunes devraient porter un uniforme et participer chaque semaine à la cérémonie du salut au drapeau tricolore, mais le centre ne sera pas fermé, ce qui ne rassure pas les 3000 habitants de Beaumont-en-Veyron.
Bien sûr que ça fait peur à la population. Tout le monde a peur, tout le monde ne parle que de ça depuis ce matin. Allons-nous avoir un encadrement correct pour ces personnes? Hier, Paris, demain, peut-être nous. Obligatoirement qu'on a peur, on est obligé d'avoir peur.
Gilles Platresque, le rôle du maire, il consiste aussi à rassurer la population. Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce qu'à Chalon-sur-Saône, par exemple, vous seriez prêt à accepter un centre de déradicalisation?
Moi, je pense que, alors c'est typiquement le rôle de l'État, en l'occurrence, que de conduire cette politique-là. Mais moi, je peux comprendre aussi l'émoi de la population, c'est bien légitime. Il y a une peur aujourd'hui dans ce pays. Simplement, cet outil-là, Il répond aussi à un certain nombre de problématiques parce que nous avons des milliers de personnes sur notre territoire national, des milliers de personnes qui sont radicalisées aujourd'hui. Donc il va bien falloir qu'on s'attaque aux problèmes de front. Je pense que, on va être très clair, je pense qu'on agit aujourd'hui. Cette année 2016 voit la mise en place d'un certain nombre d'outils. Mais Mohamed Merah, c'était 2012. Céline Pina l'a dit. Le premier acte de djihadisme local, c'était il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, il est grand temps d'agir. Donc oui, il faut des centres de déradicalisation. Je comprends l'inquiétude de la population, mais c'est aussi là pour le coup à l'État, alors en s'appuyant sur les maires, je l'imagine, mais d'aller au contact de la population pour donner toutes les garanties nécessaires. Mais de toute façon, ces outils sont aujourd'hui indispensables. On ne peut pas laisser ces milliers de jeunes, la plupart du temps ce sont des jeunes, sans une prise en charge républicaine pour les déradicaliser. C'est une nécessité absolue.
Il y a un levier qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Malheureusement, on est presque au terme de l'émission, mais je voudrais vous poser la question, Christophe Rouillon, maire socialiste, donc qui représente d'une certaine manière ce soir le gouvernement en place. Le levier, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Est-ce que lutter contre les inégalités, ça fait partie de la lutte contre la radicalisation? Et quand on sait quel est l'état des finances aujourd'hui des maires, et ça rejoint une des préoccupations majeures de ce congrès de l'AMF, est-ce que c'est pas une des difficultés aussi?
Oui, j'espère que demain, il y aura une annonce du président de la République, mais néanmoins, les maires, y compris de banlieue, ne sont pas oubliés. Il y a des moyens financiers qui sont donnés. Je pense que par rapport au reportage que j'ai entendu l'instant, le but des élus locaux, c'est aussi de calmer les foules. Et quand vous avez des gens qui s'inquiètent, justement, c'est de les ramener sur terre. Il faut aussi agir. Et on a des jeunes qui sont entre 15 et 25 ans, qui sont dans des phases transitoires, où ils ont des perturbations psychologiques qui font qu'ils passent de stade de l'enfance au stade adulte et qui sont manipulés. Il faut bien trouver des moyens de les ramener dans le droit chemin. Et contrairement à ce que dit...
Et la question sociale dans tout ça?
Oui, mais bien sûr.
Mais
attendez, si tous les gens qui étaient malheureux posaient des bombes, ça ferait beaucoup
ça
de monde. Donc voilà, ça serait. quand même, heureusement qu'on n'en est pas là.
Et si tous les adolescents qui faisaient une crise d'adolescence posaient des bombes, voilà, ça, on ne se poserait pas la question non plus.
Je pense que par rapport à Céline Pina, il faut quand même se rassurer d'une certaine façon et relativiser. Il n'y a pas eu de reprise massive des actes terroristes en France depuis Charlie Hebdo et le 13 novembre. Il y a quelques personnes qui sont identifiées, qui sont peut-être de l'ordre de 1000 à 2000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Il faut traiter le problème, mais il ne faut pas non plus généraliser et inquiéter et aussi souder des gens qui n'ont rien à voir entre eux.
Je crois que malheureusement, ce n'est pas moi qui les inquiète. Ils sont déjà inquiets, ils votent Front National pour le dire et ils se prennent en général ce genre de réponse qui fait monter encore le Front National.
Mais
il y a quand même des choses à faire
par des méthodes
vraiment très très importantes.
C'est la fin de l'émission, Céline Pina. Les choses à faire, elles sont notamment dans le livre que vous avez écrit.
Non, mais
Silence,
donner une deuxième
coupable.
Chance à beaucoup d'enfants qui aujourd'hui ne trouvent pas de boulot, n'ont pas d'éducation et souvent s'en rendent compte quand ils ont 18-19 ans. Et des écoles de
la
deuxième chance, il en faudrait vraiment beaucoup plus. Parce que le désespoir de certains enfants, de certains jeunes, ils vous parlent de vide juste avant de basculer.
Il nous faudra une heure de plus pour poursuivre cette discussion. On ne l'a pas. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé. Donc Céline Pina, Silence coupable aux éditions Kero. Christophe Rouillon, votre conseil de lecture, c'est le dernier livre de Fethi Ben Slama.
Voilà, j'ai pas le livre à vendre.
Et Gilles Plâtrée, maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône. Merci beaucoup à tous les trois, ainsi qu'à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Élise Leu. Demain, Barack Obama méritait-il son Nobel de la paix? Ce sera l'occasion de l'anniversaire de son fameux discours du Caire qui lui avait valu le Nobel.